라디오 패티 거긴
On le surnomme ministre des poubelles, Emmanuel Botalatalabolo Feboilengue, artiste plasticien, est celui que Grand Témoin reçoit aujourd'hui. Nous lui disons bienvenue Emmanuel. Emmanuel Botalatala, vous faites vos études primaires à l'école protestante Lingungu en province orientale. Vos études secondaires, c'est au collège Saint-Théophile en option maquisique. En 1976, vous entrez à l'Université nationale du Zaïre en mathématiques sans terminer les études. Pourquoi?
Évidemment, parce que c'était le poids social. Juste après les humanités, je m'étais déjà marié. Et bien sûr, quand bien même qu'il y avait la bourse d'études, mais je ne pouvais plus, je commençais déjà à faire des enfants. Hein. Et alors, à un moment donné de l'histoire, je ne pouvais plus continuer parce que les poids sociaux, j'avais déjà des enfants et que j'ai déjà étudiant marié, et c'était difficile.
Mais cela ne vous empêche tout de même pas hein, de travailler de 78 à 80 comme commis rédacteur à la Banque commerciale zaïroise de l'actuelle BCDC. Que faisiez-vous concrètement?
Puisque j'étais de l'option mathématique, après le test, j'étais appelé à travailler dans le service échange. En faisant des échanges de monnaie étrangère, donc j'étais à l'encaissement, je m'occupais de paiement de chèques en devise. Ce qui avait un rapport avec les chiffres, ce que j'avais appris à l'école à peu près.
Après, vous tentez encore de retourner aux études, non plus en mathématiques, mais cette fois c'est en sciences politiques et administratives au CIDEP. Qu'est-ce que vous recherchez dans tout ça?
Évidemment, dans tout ça, l'objectif, moi, était de pouvoir entrer dans un secteur où je pouvais m'exprimer. Et pour moi, peut-être, en faisant les sciences politiques administratives, cela m'ouvrirait peut-être à la porte au public et à gérer à certaines institutions par rapport aux mathématiques où je me trouvais entre le 2 carré et le 4 carré comme ça et c'était difficile.
Mais entre les mathématiques et les sciences politiques, il y a quand même un fossé. Hein. Vous avez un problème d'orientation?
Justement, c'est parce que quand on a terminé les cycles d'orientation 90, pour moi, je devais faire autre chose comme science, comme humanité. Mais comme j'étais premier, sorti premier de la classe, et vous savez, à l'époque, le prêtre cherchait à prendre le meilleur honneur, et j'étais de la troisième promotion à Saint-Théophile, c'était les années 80-70, et le père dira, voilà, Botalata, tu ne peux pas quitter, tu es parmi le premier de la classe, tu dois faire les humanités scientifiques, évidemment pour faire la promotion de l'institut, parce que c'était encore en progression. C'est comme ça, des forces jetées orientées vers les humanités scientifiques.
Aussi, vous avez accumulé une série de brevets en animation culturelle, nutrition, journalisme, observation des élections. Ne dit-on pas qu'ils trop embrassent mal les trains. Comment combinez-vous toutes ces activités?
Non. Ce sont des activités qui se complètent en quelque sorte. C'est-à-dire, je me trouvais dans un milieu, quand j'ai embrassé, et tous ces brevets sont venus après, justement. C'est parce que lorsque j'étais déjà dans la pratique, et j'étais déjà dans l'art, et ce n'est qu'après, vous verrez, c'était vers les années 98-99, et je me trouvais en plein travail, en pleine création, je me suis dit, ah ben, il fallait quand même grignoter un peu les techniques et le journalisme, parce que pour voir un peu comment on décortique, comment on récupère les éléments, les informations, les nouvelles, les traitements, de l'information, tout ça, et ça me permettait juste de prendre ces connaissances et d'insérer dans mon art.
Vous avez travaillé comme journaliste, c'était dans quel organe de presse?
Oui, j'étais dans le journal indépendant Les Solidaires à Kisangani, dans la province orientale, et c'est un journal qui a été créé par le président de la Fédération du Congo à l'époque, en pleine guerre bien sûr, hein, vers les années 78 à Kisangani, c'était Les Solidaires, un hebdomadaire.
C'est en province orientale que vous voyez le jour. Quel souvenir vous gardez de votre enfance dans cette province?
Oui, c'est une province qui était d'abord au départ bénie par le sens d'hospitalité sur le plan d'accueil des collaborations avec d'autres ressources des provinces, mais qui malheureusement a tourné un peu. La province est trahie par cette hospitalité-là. Hein, ça en
commence
à... Oui, mais c'est parce que en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la politique. Et vous verrez que tous les leaders politiques au Congo, tous ceux qui sont passés au pouvoir depuis les années 80 et 60 jusqu'à ce jour, la quasi-totalité de ces gens sont passés par la province orientale, soit pour faire leur propagande, soit pour faire lancer leur mouvement de revendication coloniale, soit pour lancer la rébellion. Et tout chaque fois, le peuple de la province orientale accueille. Et par après, on dirait ce peuple un peu, c'est une sorte de marchepied pour les acteurs politiques du pays. Et comment on est payé? Comment on est payé? Question.
Radio Capi, grand témoin.
On le surnomme ministre des poubelles, Emmanuel Botsalatala Bolo Feboilenge, artiste plasticien, est celui que grand témoin reçoit aujourd'hui. Emmanuel Botsalatala, vous débutez votre carrière artistique en 1981. Mais c'est dans quelle école que vous aviez été initié à l'art?
Oh, malheureusement. Mon cher Alain, je n'ai jamais été dans une école d'art. Rien. Ça, c'est la création.
Vous êtes un autodidacte.
Voilà, un autodidacte. Voilà les termes.
Expliquez-nous vos débuts.
Bon, en fait, comme je disais au départ, j'étais d'abord né dans une mission protestante, et Lingungu, vers les années 51. Et il y avait des missionnaires anglais qui nous apprenait dans les cadres purement pédagogiques, n'est-ce pas, des travaux manuels. On demandait à tel élève de tisser des nasses, de faire du panier, des petits objets artisanaux. Et à la fin, on ramenait ces objets à l'école. Voilà comment un élève, chez moi. Alors, on ramenait ces objets, à un bout d'un moment donné, c'était on devait coter. Mais ici, à un moment vers les années 58-59, le même missionnaire nous a demandé de créer en miniature. Ils ont ramené tous ces petits objets, et nous, on ne savait pas que c'était de l'art. Il fallait tisser, par exemple, une nasse en miniature.
Une petite gibecière.
Une gibecière, ainsi de suite. Voilà. Et c'est à ce moment-là, ils ont apporté tout. Et moi, je suis resté avec ces connaissances, et dit, ben, évidemment, j'ai laissé tomber. Et c'est que par après, pendant le chômage, quand j'ai quitté la banque, et pour tenter de faire des études, comme tu l'as dit, j'ai dit, mais je savais qu'il y a une affaire. J'ai dit, mais j'ai commencé à ramasser des petites choses juste pour décorer ma maison. C'était comme ça.
Et c'est à partir de là qu'on vous surnomme ministre des poubelles.
Non. C'est-à-dire, quand j'ai commencé d'abord passionné la vie des Kinshasa, à travers le marché, les bistrots, entre des vendredis et soirs, des petits tableaux où c'était peint en couleur verte, où on plaçait des petits objets en miniature. Les tableaux étaient salons aux ailes à Lingamoussala, on me surnommait comme ça. Des objets de marché, des coupes-coupes, des petits arrosoirs, ainsi de suite. Alors, on circula avec ces objets, et c'est comme ça que le public s'est intéressé à me suggérer des thèmes, et par après, j'ai évolué avec le centre culturel, et maintenant on me dira non, mais il gère la poubelle. C'est le public qui m'a surnommé.
Ah oui, et vous gérez très bien cette poubelle. Cette poubelle.
Oui, d'une manière ou d'une autre. Hein.
Et quelle est votre discipline principale?
C'est la peinture, collée, n'est-ce pas, doublée de maquettes. Donc, je suis peintre maquettiste. C'est difficile, hein, je suis un peu à cheval, quoi.
Et vous dites que votre art est didactique, en quoi peut-on le voir?
Mais justement, c'est parce que je crée en miniature des petits objets sous forme de jouets, et une fois cet objet collé sur un panneau par thème, et cela rapproche la pédagogie. Et cela rapproche une sorte de support visuel pour l'enseignement. Et c'est ainsi que j'ai été orienté à embrasser de nouveau des recherches en pédagogie dans les cas de production des matériels didactiques à Kisangani.
Quelle est votre source d'inspiration?
Je m'inspire plutôt non de la poubelle, mais de la vie quotidienne, de l'actualité, de la vie de tous les jours. Je m'inspire de tous les faits politiques, sociaux, économiques qui frappent l'homme. Et lorsque ces faits arrivent, ça provoque en moi un choc. Et à ce moment, je réagis. En faisant des petits croquis, maintenant, je recours à la poubelle juste comme matière première pour matérialiser ma pensée. C'est comme ça que je travaille.
Et tenant compte du nombre de toutes les poubelles qui nous entourent, en tout cas, vous ne chômez pas.
Oui, en fait, je suis un ministre qui n'a pas peur de remaniement ou de démission parce que j'ai géré moi-même les ministères. Mais en fait, c'est dans cette démarche-là, je voudrais dire que c'est une sorte de démarche philosophique à mon niveau, une sorte de recyclage. Combien on peut partir d'un objet jeté, tout ce que la société jette, hein, la société contemporaine est caractérisée par le rejet, tout ce qu'on jette, est-ce que tout ce qu'on jette dans la poubelle est jetable, excusez-moi les termes, ou on ne peut pas récupérer? Et moi, en recourant à la poubelle, je prends ces objets, j'essaie de donner à cela un nouveau souffle. Pour dire qu'on peut partir d'une poubelle, d'une société, si vous voulez, en décadence, pour en faire, n'est-ce pas, une société en développement, une société développée et améliorée.
Nous allons parler dans quelques minutes de vos œuvres. C'est depuis 1993 que vous présidez l'ASBL dénommée Atelier de recherche en art populaire arabe. Comment pratiquez-vous cette recherche dans l'art populaire?
Bon, la recherche, c'est fond d'abord... on prend d'abord, il faudrait d'abord commencer par expliquer que l'art populaire, c'est le style qui, en fait, part des thèmes qu'il peint. Ce sont des artistes qui peignent la vie quotidienne. Alors, ils peignent soit sur des toiles, ce sont des peintres, il y en a qui font des maquettes, la récupération, et alors, à ce moment-là, nous faisons des recherches et comment? C'est sur le plan technique des productions. Comment on peut présenter un fait social, soit sur toile, soit sur maquette, ou combiner parfois les deux. Voilà, et c'est un peu ça la leçon de la recherche. Ce sont les plans purement techniques et thématiques.
Alors, Emmanuel Botalatala, de la musique à la peinture, il n'y a qu'un pas. Je sais que vous aimez beaucoup la musique aussi. Je vous invite à suivre une chanson dont je verrai si vous pouvez en reconnaître l'auteur.
Oui.
Alors, Emmanuel Botalatala, vous avez une idée de la personne qui chante?
Oui, c'est une musicienne congolaise.
Elle s'appelle comment?
Je crois que c'est, je crois pas que la voix se ressemble à Billy Adele. Je crois pas.
Non, je pense plutôt que c'est Mpongolo.
C'est Mpongolo de Billy Adele.
C'est Mpongolo qui a interprété la chanson, c'est elle qui chante là. Et le compositeur, c'est Diaband.
Oui.
Et la chanson, c'est Bakaki.
Bakaki, mais je connais pas les titres, mais je connais toute la chanson.
Ah oui. Et à l'époque, vous faisiez quoi, Emmanuel Botalatala, pendant que cette chanson était sur le marché?
J'étais encore aux études, hein. J'étais aux humanités, hein. pour la chance passée, je me souviens, j'ai quitté ma tête, j'étais encore dessiné.
Et le titre, c'est Bakake, c'est-à-dire en français, les tonnerres, les éclairs. Ça rappelle quand même un moment dur de la vie d'une personne. Et en parlant de vous, votre nom a un sens. Vous me le disiez dans le couloir. Rappelez-moi.
Oui, mais justement, le nom a un sens. Il signifie la mort, ou comment la mort attaque dans une lignée, n'est-ce pas, avec le devant, le derrière, les milliers, on l'appelle Botalatala, hein, n'est-ce pas, c'est en dialecte topoké, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est confronté en juste à des problèmes, hein, à des problèmes sociaux, à des difficultés de la vie, et cela a quand même marqué ma vie.
Et mais je pense que malgré les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, avec la poubelle, vous y sortez des choses aussi merveilleuses que les œuvres que vous faites. Je pense que votre vie a été relevée, hein, d'une certaine manière.
Oui, relevée, pas sur le plan matériel, parce que c'est difficile de vivre de l'art au Congo, mais relevée sur le plan spirituel, sur le plan de l'épanouissement. C'est-à-dire à travers la poubelle, là où c'est sale, je m'exprime, je tire des éléments, et ces éléments me permettent, n'est-ce pas, de s'exprimer. Ça, c'est une ouverture, bien sûr. Ça, je pourrais dire que j'ai quand même gagné.
Comme on dirait que de la mort ressort la vie.
Voilà.
Alors, Emmanuel Botalatala, vous avez fêté vos 56 ans au mois de mars dernier, mais est-ce que vous songez déjà à la relève?
Oui, justement, c'est le problème. Je suis en train d'initier un de mes fils, Botalatala Julien, qui s'intéresse à l'art, justement pour essayer de prendre la relève, comme vous l'avez dit. Mais j'aurais plutôt voulu que le jeune congolais, d'une manière générale, la jeunesse vienne dans mon atelier, apprendre cette technique-là. Parce que, bien sûr, on ne sera plus là d'un moment à l'autre. Il faudra que ça continue. Mais j'essaie d'orienter un de mes enfants à les suivre, à emboîter mes pas. Mais la porte est ouverte. Je souhaite plutôt encadrer la jeunesse.
Et je sais que vous avez toujours rêvé d'en faire une grande école.
Oui, effectivement, parce que c'est un style qui est tout à fait particulier, qui sort des néants, si vous voulez, et qui donne déjà des créneaux, des formations. Alors, je rêve, n'est-ce pas, de créer un centre qu'on appelle le Centre d'art et métiers, d'abord pour action culturelle. Alors, je n'ai qu'un seul problème. Il y a un problème maintenant de l'emplacement dans la ville de Kinshasa. Et le reste est déjà sur place, mais il y a un problème d'emplacement.
Vous avez plusieurs œuvres dont bon nombre sont acquises par des musées ou des collections publiques ou privées. Citons à titre illustratif le Zaïre au travail, Perestroïka, partenariat Union Européenne, RDC. Expliquez-nous un peu chacune de ces œuvres. Commençons par le Zaïre au travail.
Le Zaïre au travail, c'est la première œuvre. Et cette première œuvre a été réalisé au début des années 81. Il s'agit des collections, comme je l'ai dit, des collections de petits objets en miniature, l'agriculture, hein, par exemple.
Le Salongo.
Alors, je peignais ces tableaux-là, et en vert, en tricolore, avec le drapeau du Zaïre et les armoiries, et au milieu, j'écrivais le Zaïre au travail. Parce que la plupart de mes œuvres portent toujours un titre. Et là, en bas, je mettais des petites collections, comme je l'ai dit, des petits objets, mais cela avait une explication politique. Et les messages passaient parce que ça coïncidait avec l'idéologie du IMPR à l'époque, hein, quand c'était l'agriculture priorité des priorités. Et c'est comme ça.
Et la perestroïka.
Oui, la perestroïka, juste vers les années 90, il y a eu ce courant, n'est-ce pas, qui a frappé l'Afrique, et où en partant de la chute de Berlin, et pendant cette période-là, l'Afrique était, n'est-ce pas, embarquée dans ces courants. Il fallait se débarrasser des dictateurs de l'époque, et pour se lancer dans
la démocratisation
des institutions. Alors, je peins ces tableaux-là, où on voit l'Afrique sous forme d'un arbre, où on est en train d'enlever les feuillages, n'est-ce pas, on enlève l'écorce, pour laisser la place à une Afrique beaucoup plus prospère.
Et le partenariat Union Européenne-RDC?
Oui, ici c'est un tableau qui a été réalisé en 2006, début 2006. C'est une commande que j'ai reçue de la Commission Européenne en RDC. Cette œuvre existe. On peut la voir au bureau de la Commission ECOFIN, hein, la Commission Financière. ici à Kinshasa, où j'ai essayé de présenter d'une manière synthétique le partenariat entre l'Union européenne et la RDC, et qui était à un moment donné interrompu et qui a repris. Et là, je présente les différents secteurs d'intervention de l'Union européenne. Voilà.
Vous avez dernièrement présenté une œuvre portant sur la campagne sur le contrat de bail initié par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Quel est votre message dans ce tableau?
Bon, comme je disais au départ que je pars de thèmes d'actualité, et lorsque je m'ai trouvé dans mon salon et qu'il y a eu l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat avant le remaniement, a pris un arrêté portant, n'est-ce pas, la réglementation de ce secteur de bail, alors je le suivis. Et moi, je pensais que c'était une décision salutaire. Je disais, mais comment le gouvernement peut passer de la théorie à la pratique? Comment concrétiser? Et moi, j'ai voulu participer d'une manière spontanée à cet événement. J'ai pris mon crayon, j'ai commencé à interpréter l'exposé du ministre de l'Urbanisme et Habitat, M. Simon Ikenge, que j'ai bien suivi. Et après, j'ai représenté ces tableaux. Et les tableaux se trouvent au cabinet du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Donc, derrière le ministre, aujourd'hui même, le tableau se trouve là. Et c'était une contribution pour moi, comme un artiste participer, si vous voulez, au développement ou à l'éducation de la nation.
Et actuellement, on parle du changement des mentalités. Vous n'avez encore rien fait dans ce sens-là?
Je réfléchis sur ce thème, mais actuellement, je suis en train de travailler sur la contribution, n'est-ce pas? Oui, le programme du gouvernement, tel que présenté, bon, on le dit d'une manière générale, le chantier du chef de l'État, mais moi, je vois plutôt qu'il s'agit, n'est-ce pas, de la contribution, du changement des mentalités des Congolais, de pouvoir contribuer dans ces projets-là, enfin dans ces programmes, dans un secteur bien déterminé, chacun ce qui les concerne. Je suis en train de réaliser une œuvre où on voit les Congos, n'est-ce pas, au travail, où chacun contribue, Alain qui est journaliste, le ministre des Poubelles qui est peintre, ainsi. Alors, on essaie de réunir les efforts pour, n'est-ce pas, refonder l'État congolais.
Emmanuel Botalatala, il y a quelques mois, le gouvernement de la République a fait une dotation de 2 millions de dollars aux artistes congolais, mais cet argent fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quel usage doit-on en faire à votre avis?
Merci Alain, j'étais l'invité de votre radio, plus précisément le 30, si je m'abuse, le 30 juillet 2007. C'était l'émission
Dialogue
entre les Congolais. J'étais en face du directeur du cabinet du ministre de culture et art, et puis à côté j'avais mon collègue artiste musicien Wazekwa. Alors il nous a été demandé de donner le point de vue sur le 2 millions. Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas autour de 2 millions, 4 millions, 4 milliards, 5 milliards. C'est de voir ce que les Congolais peuvent faire. Est-ce que les Congolais ont une politique, les gouvernements congolais, les ministères de la culture et des arts, a une politique culturelle pour le Congo, n'est-ce pas? Et au moment où je vous parle, j'en profite, parce que je n'aime pas tellement me mêler dans les chiffres. Moi, je me plains tout simplement lorsque je vois nos confrères, nos collègues musiciens s'entrer déchirés autour de 2 millions. Mais pourtant, cet argent devrait être, pour répondre à ta question, on devrait plutôt orienter vers la création des infrastructures pour soutenir, n'est-ce pas, la production culturelle congolaise. Tenez, M. Alain, comment voulez-vous un pays comme la RDC? Je l'ai dit l'autre fois, il n'existe aucune salle d'exposition qui peut accueillir une exposition des arts plastiques. Ça n'existe pas. À Kinshasa, l'unique salle, c'est qu'il faut recourir chez nos partenaires étrangers, centre culturel français, centre culturel Rwanda Bruxelles. Ça n'existe pas. On peut en créer. Et pour les musiciens, il n'existe pas même un studio. Si vous allez du côté de nos frères qui font le théâtre, il n'existe même pas une salle où on peut organiser des festivals. Et c'est pourquoi les Congos, on voit, n'est-ce pas, devant lui, et tous les festivals lui échappaient.
Nous allons faire un clin d'œil à l'actualité, Emmanuel Botalatala. La Fédération des entreprises du Congo a salué l'implication du gouvernement congolais dans les préparatifs de gestion des financements chinois pour la reconstruction de la RDC. Dans un mémorandum rendu public le vendredi 7 décembre dernier, la FEC a sollicité l'implication des entreprises congolaises à la sous-traitance de ces travaux d'infrastructure. Pour la FEC, Ce partenariat permettra non seulement d'éviter les dérapages dans la gestion de ce financement, mais aussi d'élever le niveau de l'économie nationale tout en réservant une place importante à la main-d'œuvre locale. Les grandes lignes de ce mémorandum avec René Capita.
Dans ce mémorandum, la Fédération des entreprises du Congo sollicite la mise en place d'une réglementation nationale des sous-traitances pouvant garantir au moins 20% des volumes de sous-traitance aux entreprises privées, banques et bureaux d'études congolais. Pour la FEC, cette sous-traitance devra en outre être réservée exclusivement aux entreprises congolaises. La FEC recommande aussi la création d'une plateforme incluant la Fédération des entreprises du Congo, le gouvernement congolais et les partenaires chinois. Ce cadre de concertation devra assurer l'évaluation et les suivis permanents de l'exécution des projets sous-traités aux entreprises congolaises. À ce sujet, la FEC devra identifier et encadrer ces entreprises congolaises de sous-traitance. Dans le souci d'assurer les transferts des technologies chinoises aux entreprises congolaises et l'émergence de la classe moyenne, le gouvernement devra promouvoir les partenariats entre entreprises congolaises et chinoises, faciliter les crédits de sous-traitance et développer avec le concours de la FEC et en fonction des besoins, des programmes de formation technique et professionnelle des capacités congolaises.
Emmanuel Botalata, la ministre des Poubelles, vous avez une réaction par rapport à la coopération sino-congolaise?
Moi j'ai plutôt une autre réaction. Au départ, d'abord, le gouvernement congolais va changer de camp, n'est-ce pas? Parce que c'est un État souverain. Il va dire, avec trop de théories avec l'Union européenne, vous voyez, avec les institutions, la Fonds monétaire international, moi je voudrais aussi changer de partenariat. Voilà. Ça, c'est le départ. Le gouvernement congolais va tendre la main à la Chine. La Chine, on ne sait pas vrai ou faux si ces fonds sont arrivés. Parce que ça fait tellement de bruit sur le plan politique et tout ça. Alors, moi, plutôt, je m'attelle plutôt à sur le plan politique. Ma position est la suivante, je ne m'engage que moi-même. Parce que je n'entre pas dans la gestion, la FEC et tout ça, et les contrats de sous-traitance. Moi, je vois plutôt ces contrats qui ont été contractés, n'est-ce pas? C'est cet argent, cette dette qui a été contractée d'une manière ou d'une autre par le gouvernement congolais. Et que ça échappe au peuple congolais. On nous parle d'un montant, c'est combien? 4 milliards, c'est pas moi. Bon, les fonds sont arrivés. On parlait déjà de la sous-traitance. Le peuple congolais, l'homme de la rue, ignore est-ce que c'est un prêt de combien d'années le peuple congolais va rembourser, après combien de décennies, après combien de mandats. Moi, je souhaiterais, j'aurais voulu à ce que le Parlement congolais, le représentant du peuple, ça c'est mon point de vue de l'homme de la rue, que le Parlement congolais puisse jeter, parce que je n'ai pas encore suivi un débat politique, n'est-ce pas, au niveau du Parlement autour de cet argent. Vous voyez, parce que c'est le fonds qui engage le pays, ça engage le peuple congolais. Alors moi j'aimerais plutôt que, avant qu'on arrive à la gestion, à la sous-traitance, que les dossiers, que les débats, que le peuple congolais puisse savoir que voilà, les gouvernements congolais, pendant ces mandats, on a attrapé autant, et ce sera échelonné autant, et on va rembourser autant. Voilà ce qui me préoccupe.
Vous n'avez pas encore songé une fois de plus à faire une œuvre sur la coopération sino-congolaise?
Oh, mais l'œuvre est déjà sortie. Je vous dis que il y a un tableau d'ailleurs qui est en chantier.
Alors je crois qu'on pourra partager les droits d'auteur parce que je vous ai beaucoup inspiré.
Merci beaucoup.
Nous tendons vers la fin de cette émission, Emmanuel Botalatala. Vous avez participé dernièrement au festival Yambi à Bruxelles.
Oui.
Quelle leçon vous y avez tiré?
Bon, d'abord, je remercie d'abord les organisateurs, c'est-à-dire les commissariats généraux de ces festivals, que ce soit du côté congolais, du côté du gouvernement belge, enfin de Wallonie-Bruxelles, et de m'avoir, n'est-ce pas, mis sur la liste de participants. Pour moi, en fait, c'est un grand événement. Pas un événement culturel, pour paraphraser le professeur Yoka, mais c'est un grand événement. C'est parce que depuis la première exposition qui a eu lieu à Bruxelles, si je me souviens, en 1958, c'est la grande exposition où c'est la première fois où le Congo présente au public belge plus de la production de nouvelles créations. Et en plus de 117 expositions, pour ne parler que de représentation des arts plastiques. Il y a eu plus de 350 manifestations pendant 2 mois. Pour moi, c'est déjà grand. Et en conclusion, je pourrais dire que et voilà aujourd'hui le Congo qui sort, n'est-ce pas, d'une sorte de tour d'ivoire pour pouvoir s'exprimer, s'exposer, n'est-ce pas, exposer ses créations à travers le monde. Donc le Congo, c'est un envoi, n'est-ce pas, un élan pour moi à travers cet événement-là.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Emmanuel Boutalatalabolo Feboilengue, artiste plasticien que l'on surnomme ministre des poubelles, à la réalisation Nadine Foula et à la mise en onde Willem Lungamba. Cette émission est disponible sur le site Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez également voir les photos de nos invités. Au revoir.